Merci d'être de retour et merci à tous ceux qui se joignent à nous pour cette deuxième heure d'émission. Je vous encourage à réécouter la première sur notre application ou sur Internet parce que sincèrement, je suis tellement surprise ce matin, agréablement surprise parce qu'on vient de parler pendant une heure de la géphirophobie, c'est-à-dire cette peur irraisonnée de rouler sur des structures routières, ponts, viaducs, parce qu'on les trosse pas, en gros, c'est ça. Et je n'arrête pas là pendant la pause et pendant les nouvelles, je lisais tous vos témoignages de ceux qui m'écrivent pour me dire à quel point ils font des détours pour ne pas passer sur Turcot, par exemple, ou le vieux Champlain, ou certaines routes, ou certains viaducs. Alors, ça me rassure beaucoup parce que ça veut dire que, un, je suis pas la seule. Moi, je m'attendais à ce qu'il y en ait au moins un qui me traite de folle. Même pas. Alors, vous voyez, ça fait ma journée. Allez réécouter ça parce que on va parler de stress dans cette deuxième heure d'émission, puis il y a un lien, finalement, parce que c'est la géphirophobie, finalement, c'est une source de stress, une autre source de stress. À partir d'aujourd'hui et pour toutes les deuxièmes heures de notre semaine, c'est une espèce de cure qu'on vous propose cette semaine, en fait, un petit plan, 5 jours pour reprendre votre vie en main. On va aborder plein de choses qui nous touchent directement. On va parler de stress aujourd'hui. Demain, on va essayer de voir comment on peut améliorer notre santé. Mercredi, on va parler des personnalités toxiques qui nous polluent la vie, qui nous bouffent notre énergie. Jeudi, on va parler de surconsommation et de comment faire en sorte de freiner un peu là-dessus parce que ça n'a juste pas de bon sens. Là encore, la dernière fois que je vérifiais, là, c'était 170% notre taux de crédit. Faut arrêter ça. Et vendredi, comme les vendredis, c'est vendredi, c'est ça, on va parler de sexe et aussi sexe et pornographie parce qu'il semble, en tout cas, j'ai des invités qui vont venir nous le dire, il semble que la pornographie a pris le dessus. Enfin, c'est assez particulier ce mélange porno et sexe aujourd'hui, qui devient un modèle d'ailleurs pour la jeune génération. Mais parlons de stress parce que, oui, on s'est dit, le stress, ça mène notre vie. Le stress, on est tout le temps plongé dedans. Et malheureusement, à cause du stress, que ce soit au travail ou dans notre vie personnelle, ça nous rend malade. Et il faut absolument faire quelque chose. On est des bibittes stressées. On est des bibittes incapables aujourd'hui de se contrôler, de contrôler certains aspects de notre vie. Et là, aujourd'hui, on va essayer vraiment s'orienter solution. Ce matin, là, on va essayer de voir comment sortir le stress de notre vie. En tout cas, on va essayer un peu. On pourra peut-être pas régler tout votre stress, mais peut-être un petit. Catherine Raymond est avec nous. Elle est doctorante au Centre d'études sur le stress humain à l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Merci d'être là, Catherine. Nicolas Chevrier, psychologue du travail. Merci, Nicolas, d'être avec nous. Nicolas qui a d'ailleurs fait son doctorat sur le burn-out, qui est en fait
La conséquence
du stress chronique. Ouais. Pourquoi tu t'es intéressé au burn-out en particulier, Nicolas?
Mais à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de littérature. On ne comprenait pas très bien pourquoi les gens souffraient d'épuisement professionnel. Puis clairement, on le voit dans nos environnements, on le voit dans l'environnement de travail. Donc, je trouvais ça intéressant d'essayer de voir qu'est-ce qui se passe exactement. Puis surtout, un élément sur lequel j'avais décidé de focusser, c'était vraiment les facteurs organisationnels qui vont amener les individus à développer l'épuisement professionnel. Donc, qu'est-ce qui, dans mon environnement de travail, va me mettre plus à risque de développer du burn-out, d'épuisement professionnel?
Et tu as trouvé quoi comme réponse?
On a 6 grands facteurs qui sont très clairement liés au développement de l'épuisement professionnel. Donc, on a entre autres la charge de travail qui est très importante. Est-ce que ma charge de travail est trop élevée? Ensuite, on a la perception de contrôle que j'ai sur mes tâches, sur mes objectifs. On a la congruence entre mes valeurs et puis les valeurs de l'organisation. Donc, est-ce que l'organisation pense comme moi? Est-ce que c'est une organisation qui fait du bien à la société, un peu comme moi, j'ai envie de faire du bien à la société, par exemple, sur cette valeur-là? Ensuite, on a les récompenses. Jusqu'à quel point est-ce que...
Je suis reconnu?
Oui, exactement.
La reconnaissance,
ouais. Exactement. Parce qu'on sait maintenant, là, 20 ans plus tard, qu'au niveau financier, ça ne change pas grand-chose de passer un certain seuil. Ce qui est important, c'est plus une reconnaissance générale de la part de l'organisation. Et puis ensuite, on a également l'équité. Donc, est-ce que les gens sont traités de la même façon, au même niveau, selon des règles claires? Puis finalement, la communauté là, qui englobe ma relation avec mes supérieurs, ma relation avec le conseil de direction, par exemple, et ma relation avec mes collègues masculins, féminins, tous ces différents éléments-là, le harcèlement, ça, c'est le 6e facteur important.
Ça en fait beaucoup d'endroits où on peut être finalement stressé. Puis ça, c'est les facteurs au travail, mais...
Oui.
Il n'y a pas que ça. Il peut y avoir ta vie personnelle qui rentre là-dedans aussi.
Absolument. Il peut y avoir notre vie personnelle, même qu'il y a des chercheurs qui, il y a 4 ou 5 ans, ont repris le modèle de l'épuisement professionnel, puis l'ont appliqué au modèle parental. Donc, ils ont appelé ça le burn-out parental. Je ne sais pas si vous avez fait une émission là-dessus.
Ouais.
Donc, on reprend les mêmes facteurs organisationnels, puis on les applique à la famille, puis ils fonctionnent aussi bien. Ça devient aussi des... Donc, c'est très intéressant.
Et on connaît la nouveauté, le burn-out féminin, aussi appelé charge mentale.
Oui, absolument.
Hein? N'est-ce pas?
Absolument.
Catherine Raymond, vous avez fait vous faites des recherches en stress humain, donc le stress global. On essaie, là, avant d'aller en mode solution, de l'expliquer. Hein? Stress humain, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus là, que Nicolas n'a pas encore abordé?
En fait, il y a plusieurs éléments que vous rapportez qu'on note dans la recherche sur le stress en général. On note deux types de stresseurs en général. Le premier, très classique, très instinctif, on a une menace à notre survie. Hein? Je traverse la rue, il y a une voiture qui arrive à toute vitesse. Je vais mobiliser beaucoup d'énergie pour pouvoir fuir cette menace-là. Ou encore, je croise un ours dans la forêt, je vais mobiliser l'énergie pour combattre ou fuir, ce que je vous suggérerais probablement dans ce type de situation. Donc ça, c'est une menace à notre survie. Il y a un deuxième type de stresseur auquel on fait face beaucoup plus souvent, que ce soit au travail, dans la famille, c'est ce qu'on va appeler un stress subjectif. On interprète une situation comme étant stressante. Puis en général, il y a 4 caractéristiques qui vont initier ce type de réponse de stress-là. La première, j'ai l'impression que j'ai pas le contrôle sur la situation. Je perds mon emploi, j'ai un enfant qui arrive à la maison, il se fait intimider, etc. Okay? Deuxième caractéristique, on parle d'imprévisibilité. Donc, soit il y a un événement imprévisible qui advient, ou encore j'ai une situation entre les mains, je suis pas capable d'en prévoir l'issue. Okay? Ça peut être aussi simple que ma belle-mère se pointe pour souper, je m'attendais pas à ça, jusqu'à justement je perds mon emploi. Okay? C'est totalement imprévisible. Troisième caractéristique, la nouveauté. Okay? Donc, toute situation nouvelle à laquelle on fait face peut amener du stress, que ce soit quelque chose de très positif comme un déménagement dans une plus belle et plus grande maison, l'arrivée d'un bébé dans la famille, un nouvel emploi, ou que ce soit de la nouveauté qui est plus négative comme la fin d'une relation, etc. Et la quatrième et dernière caractéristique qui va amener notre corps à enclencher une réponse de stress, c'est l'ego menacé. Hein? Mes compétences sont remises en doute. On peut parler, par exemple, de notre évaluation annuelle au travail, encore une fois, d'une entrevue d'emploi où on a des gens qui nous évaluent, qui évaluent nos compétences et dans certains cas, nos valeurs.
Et est-ce que vous parlez là, de stress négatif ou d'éléments négatifs ou même de déménagement positif où on déménage dans une plus grande maison, où on devient propriétaire? Est-ce que tous les stress s'équivalent? Parce qu'on a déjà parlé de bon et de mauvais stress. Oui. Est-ce que vous êtes partisans de ça tous les deux, Catherine?
En fait, on sait qu'il existe du bon et du mauvais stress. Le bon stress, on va appeler ça de l'eustress. Hein? E en grec, ça veut dire bon, ça veut dire good. De l'eustress, que ce soit par exemple parce que je saute en parachute, hein? Il y a des gens qui s'adonnent à ce type d'activité-là. Ouais. Ils aiment ça, là. En tout cas, je leur souhaite. Hein? Ils ont l'air de bien aimer. Donc, dans ce type de situation-là, on va sécréter ce qu'on appelle des hormones de stress. Ce sont des hormones qu'on sécrète à chaque fois qu'on fait face à un stresseur. Ceci dit, ils ont une bonne interprétation de la situation, ce qui fait en sorte que leur santé cardiovasculaire est correcte. Okay? Ce qui arrive quand on vit de la détresse, par exemple...
Ceux qu'on est obligé de pousser en bas de l'avion.
Eux autres, c'est encore drôle. Moi, si on me lance en bas d'un avion, ça va pas du tout.
Non, moi non plus.
Non, c'est ça. Hein? Les gens qui vivent la détresse, que ce soit parce qu'ils vivent du stress chronique au travail, à la maison, ces gens-là vont sécréter les mêmes hormones de stress.
Donc, c'est les mêmes hormones
de stress. C'est les mêmes hormones.
L'élément, je pense, qui est très important, c'est la perception de menace. C'est vraiment ça qui va déterminer est-ce qu'on est du côté du stress ou du côté du stress en tant que tel. Donc, lorsque je perçois qu'il y a quelque chose de menaçant, à ce moment-là, je suis plus du côté négatif, puis je dois développer une façon de m'adapter, de faire face à cette situation-là. On le disait tout à l'heure, il y a une voiture qui vient vers moi, je vais courir, donc je m'adapte à la situation d'une façon extrême. Si je reste là, je vais probablement mourir. Mais donc, la question de l'adaptation devient extrêmement importante. Puis de bien identifier qu'est-ce que je trouve menaçant dans cette situation-là. Catherine y faisait référence tout à l'heure. Et puis, moi, je travaille beaucoup en psychothérapie là, lorsqu'on fait de la gestion du stress avec le modèle de Sonia Lupien, qui est le modèle CINÉ, donc contrôle, imprévisibilité, nouveauté et puis égo. On revient constamment, c'est vraiment ce qu'on enseigne aux gestionnaires, de bien identifier dans leur environnement quelle est la menace, puis laquelle de ces dimensions-là est présente dans cette menace-là. Donc, ça devient très, très, quasiment une règle mathématique. Pourquoi? Parce qu'après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ces quatre éléments-là, on va en discuter, puis on va se poser la question, comment je peux faire pour neutraliser ces éléments-là, ce qui va venir neutraliser ensuite ma menace également. Donc, si j'identifie que le problème, c'est un problème de contrôle, comment je fais pour me donner plus de contrôle. Mm-hmm. Si c'est de l'imprévisibilité, un élément qui est important avec l'imprévisibilité, qu'on voit souvent dans la gestion des nouvelles technologies, entre autres, on en a déjà parlé, quand les courriels sonnent dans ma poche, c'est quelque chose d'imprévisible qui peut venir me déranger au travail. Donc, comment je peux faire pour neutraliser cette imprévisibilité-là? Bien, dans cet exemple-là, c'est assez simple. Je ferme mon téléphone, puis je détermine dans une journée, par exemple, que durant une heure, je me mets une plage sans courriel, sans appel téléphonique. Donc, on va essayer de neutraliser un des quatre éléments.
La source.
Absolument.
Ouais, ouais. Absolument. C'est drôle parce que ciné, ça pourrait faire penser à cinéma où on pourrait rajouter le M de menace puis le A pour abandon éventuellement à la fin. Là. Parce que, trouvez-vous c'est une bonne idée? Parce que c'est vrai qu'on se fait des scénarios parfois, comme ouais. au cinéma. Là. Puis
oui.
c'est ces scénarios-là qui nous font rentrer dans une spirale. Ça devient comme une boule de neige qu'on roule l'hiver. Ça devient une grosse affaire, d'une petite affaire, ça devient une grosse affaire. Comment ça se fait qu'il y a des gens qui ont plus tendance à avoir à rouler la boule puis à en faire ouais. une énormité, puis à traîner un poids de stress incroyable, puis d'autres... Ça va rester un petit flocon. Hein.
C'est certain qu'il y a des traits de personnalité qui vont nous amener à plus ou moins réagir par rapport à certaines situations. Quand on parle ici là, de repenser constamment à ces événements-là, quand on est des anticipateurs professionnels, là, quand on ouais. est anxieux et ouais. qu'on a tendance à essayer d'anticiper l'arrivée de ces menaces-là avant même qu'elles ne soient là, c'est un trait de personnalité qui va nous amener à être stressé plus souvent. Puis par rapport à des situations qui ne devraient pas nécessairement éliciter la réponse de stress. On peut parler aussi de rumination, hein, les gens ouais. qui ont tendance à constamment se repasser les situations stressantes auxquelles ils ont fait face. Ça aussi, ça va nous amener à être plus prompts à réagir par rapport à la prochaine menace. Puis une chose qui est importante avec tous ces stress relatifs-là, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être devant une menace pour activer notre système de stress. Hein. Le simple fait d'y penser, ouais. ruminer par rapport à ces événements-là, les anticiper, ça va nous amener à sécréter les mêmes hormones que si on avait un ours devant nous.
Ouais, ouais. Est-ce que le corps reconnaît la différence entre le bon et le mauvais stress, Nicolas?
C'est vraiment le cerveau qui va faire la différence. C'est vraiment mon traitement d'information, ma façon de voir, de percevoir les différentes croyances que je vais avoir par rapport à la situation qui vont conditionner ma réaction, qui est très, très physiologique. Hein. On parle de l'activation d'une partie de notre système nerveux. Mm-hmm. Quand je perçois une menace, c'est mon système nerveux sympathique qui s'active et puis qui me prépare mon corps à faire face à cette menace-là. Donc, c'est vraiment mon cerveau qui envoie un message au reste de mon corps. Puis ça, c'est très important de le comprendre. En ce sens où toutes mes croyances, même ma façon d'approcher, on parlait tout à l'heure de la peur des pompes, des viaducs. Ben avant d'arriver sur un viaduc, si je me dis le viaduc pourrait s'écrouler, ben nécessairement, je vais craindre. J'ai une perception de menace qui arrive, mais moi, quand j'arrive sur un viaduc, par exemple, je ne souffre pas de cette phobie-là, ben je me dis pas ça, j'ai pas cette croyance-là. Donc, pour moi, je ne perçois pas cette situation-là comme étant menaçante. Puis objectivement, dans les deux cas, il n'y a pas une plus grande probabilité que le pont s'écroule si je passe dessus ou si quelqu'un qui a la phobie passe dessus. Là. Objectivement, ça ne change rien. C'est vraiment ma perception qui va tout changer.
Qu'est-ce qui fait alors qu'on est des êtres comme... C'est comme si on était devenu hypersensible au stress, finalement. Mm-hmm. C'est un peu ça, non? Catherine,
en fait,
peut-être?
Une des hypothèses, il y en a peut-être d'autres, qui est actuelle à ce jour, c'est on se dit le système de stress a été bâti pour nous aider à combattre des menaces à notre survie. Hein, il y a un mammouth qui se présente face à nous. Mm-hmm. On doit sécréter ces hormones-là pour avoir suffisamment d'énergie pour combattre ou fuir.
Mais ils sont morts depuis longtemps. Là.
Ils sont morts depuis longtemps. Notre cerveau ne le sait pas, lui. Okay? Donc, lui, il va réagir de la même façon par rapport à toutes les situations auxquelles on fait face au quotidien. Dans le temps des mammouths, justement, cette femme réponse de stress-là, on l'avait une fois de temps en temps. Hein, on ose croire, là, je ne pense pas qu'il y avait 6 mammouths par jour qu'on devait combattre. Aujourd'hui, on fait face à plusieurs stresseurs par jour pour plusieurs situations qui peuvent paraître insolites. Hein. J'ai peur d'avoir perdu mon téléphone cellulaire, je me demande si je vais trouver du stationnement, etc., etc. Ces hormones-là qui sont sécrétées, elles remontent au cerveau. C'est ce qui peut, à long terme, puis vous pourriez en parler encore plus que moi, Nicolas, causer des maladies associées au stress chronique comme l'épuisement professionnel, la dépression. Ça peut aussi nous rendre anxieux. Ça peut faire en sorte que notre cerveau pour nous aider, il va nous rendre très, très, très sensibles au stress. Il va faire en sorte que si un petit mammouth de gros comme un petit poids, très, très loin, on va être capable de le détecter. Il fait ça pour nous protéger, finalement. Il se dit, tu vis dans un monde très dangereux, je vais te rendre très sensible face à ces situations-là.
Uh-huh. Nicolas, je retiens que vous nous dites, Nicolas, c'est que finalement, si on parle à notre cerveau puis qu'on lui dit, calme-toi, il n'y a pas de mammouth, on devrait être beaucoup moins stressé. Donc, ça semble facile, puis en même temps... C'est plus complexe que ça, là.
C'est plus complexe. La première partie est très importante. On parle à notre cerveau.
Ouais.
On arrive à questionner notre façon de voir les choses, questionner nos perceptions. Mm-hmm. Ça, c'est pas quelque chose qu'on nous apprend quand on est plus jeune. On a l'impression que ce qu'on pense, c'est la vérité, puis il n'y a pas d'autre vérité. Donc, apprendre à questionner, apprendre à traiter nos pensées comme des hypothèses. Donc, je prends ma pensée pour une hypothèse. Est-ce qu'il y a un danger ou non? Puis j'essaie de voir quelles sont les preuves qui viennent soit infirmer ou soit confirmer cette croyance-là, cette façon-là de voir les choses. Donc, travailler les pensées, c'est extrêmement important. Puis apprendre à reconnaître d'une façon la plus, je dirais, réaliste possible quels sont les dangers réels, des dangers qui sont moins réels de ceux qui n'existent pas du tout.
Parce est-ce que vous pensez qu'on s'en crée du stress pour rien? Est-ce qu'on s'en crée des dangers qui n'existent pas?
Ça dépend vraiment des personnalités, on le disait tout à l'heure. Ça dépend aussi de notre façon, parce que c'est une habileté de gérer le stress. Mm-hmm. Donc, jusqu'à quel point est-ce que ma capacité à gérer le stress a été bien développée quand j'étais plus jeune ou lors de mes études, peu importe. Mais jusqu'à quel point est-ce que cette compétence-là de gestion du stress est développée, ça va me permettre d'être capable de mieux le gérer, de mieux décortiquer les différents éléments, puis de développer certains trucs, justement, qui vont me permettre d'avoir un bon sentiment de contrôle. On revient encore au contrôle qui est très important, sentiment de contrôle sur la situation, prendre un certain recul, puis être capable de gérer ces situations.
C'est intéressant parce que tu vois, tu dis ça, Nicolas, puis ça me fait penser aux athlètes. Parce que pour moi, un athlète, c'est probablement quelqu'un qui, dès son plus jeune âge, a été capable, parce qu'on lui a montré aussi, parce qu'il l'a développé, par exemple, que ce soit par la visualisation ou par la discipline, à être capable de contrôler son stress. D'ailleurs, ceux qui réussissent le mieux comme athlètes sont ceux qui ont une grande maîtrise de leur grande prise de contrôle de leur stress. C'est fort intéressant. Je pense qu'on a bien mis la table. Maintenant, la question, c'est de savoir comment gérer notre stress, comment parler à notre cerveau, par quoi, quels sont les moyens. On va essayer de vous donner des solutions. On a deux spécialistes, là, puis là, j'ai hâte de vous entendre, d'avoir vos témoignages. Qu'est-ce qui vous stresse le plus? Est-ce que vous avez essayé de gérer un peu votre stress? Des fois, on essaye, mais c'est plus complexe que de dire, « m'a parlé à ma tête, là ». Moi, j'essaie des fois, ça marche pas tout le temps. Ce qui fait que, bon, on peut développer toutes sortes de problèmes comme l'insomnie.
Oui.
L'anxiété, Catherine en parlait tout à l'heure, c'est vrai qu'on est dans une société de plus en plus anxieuse. Nos jeunes sont anxieux. On a aujourd'hui des enfants anxieux qui ont des gros problèmes, qui ont l'impression que leur vie finit demain matin parce qu'ils ont tel ou tel problème. Il faut se regarder, il faut prendre 5 minutes, respirer par le nez. Mais au-delà de ça, comment faire en sorte de sortir le stress de votre vie? J'ai hâte de vous entendre là-dessus. 514-790-9850 et sans frais, vous pouvez nous joindre gratuitement en faisant le 1-866-790-9850. On essaye ce matin de trouver des solutions pour mieux gérer notre stress, en laisser un peu de côté. André, bonjour. Vous, ce qui vous stresse, dans le fond, c'est votre avenir, c'est ça?
Oui, j'ai presque tout perdu il y a 25 ans. Quand c'est 80 000 $ sur ta carte de crédit, tout le monde te dit de faire faillite. Moi, j'ai pas fait. Aujourd'hui, j'ai 50 ans, je vaux 5-6 millions. Puis la seule façon dont je suis bien, c'est de continuer à accumuler de l'argent parce que j'ai peur d'en manquer. Je suis pas bien, là.
Ouais. Et là, vous voulez savoir comment relaxer un peu, finalement, là-dessus? Là.
Ben, est-ce que c'est quelque chose qui va me suivre jusqu'à ma mort? Les stress, c'est-tu post-traumatique? J'ai pas de solution, vraiment. Les seuls moments où je suis bien, c'est quand on peut pas me rejoindre au cellulaire. Donc, j'ai comme pas de responsabilité. Après 2 jours, ça me manque. C'est comme une maladie. Vous savez.
Ouais. Avez-vous déjà consulté?
Oui, mais consulté. Il faut tomber sur la bonne personne et puis c'est pas évident. J'ai consulté 5 fois, ça n'a jamais à donner, mais ça pour dire que des fois, des stress, tu vas te battre contre un stress, puis ta façon de t'être défendu, ça va rester avec toi pour toujours, j'ai l'impression.
Oui, c'est ça. Mais Nicolas, peut-être là-dessus. Merci, André.
Oui, c'est sûr que on voit là que on parlait de croyance tout à l'heure, de perception, de façon de voir les choses. Puis ce que monsieur nous dit, c'est clairement il y a eu un moment très difficile dans sa vie. Il y a ses croyances qui se sont ajustées en fonction, qui se sont adaptées à ce moment-là. Puis ensuite, il semble avoir une difficulté à se réajuster ensuite à lorsque la menace est partie, lorsque monsieur a recommencé à avoir du succès financièrement.
Mais il l'a toujours,
Il l'a toujours, absolument. Donc aujourd'hui, c'est sûr que dans un travail thérapeutique, le travail serait vraiment sur ces perceptions-là, ces croyances? Comment je peux développer une façon mieux adaptée de voir cette situation-là, particulièrement par rapport à l'argent, au fait de manquer d'argent? Est-ce que je manque vraiment d'argent? Qu'est-ce qu'il y en est? Faire certains tests. On n'a pas parlé des comportements tout à l'heure. C'est très important de voir qu'il y a des comportements qui vont venir maintenir tout ce système-là de croyances, puis venir me dire, en faisant certaines choses, je vais avoir l'impression que ces croyances-là représentent bien la réalité. Donc, avec un professionnel, on peut identifier c'est quoi ces comportements-là plus problématiques, tranquillement s'en débarrasser pour pouvoir aider à changer la façon de voir les choses.
Mais tu sais, il a parlé de choc post-traumatique parce qu'il a sans doute vécu des choses. Bon, c'est sûr que quand tu fais faillite, c'est pas le fun, quand tu perds de l'argent. Des fois, ça vient de l'enfance aussi. Tu sais, tu as vu tes parents toujours être sur le bord de faire faillite, d'avoir jamais un sou. Tu as vu les huissiers rentrer chez vous, prendre l'auto, prendre les meubles, sortir la table, la cuisine, puis le sofa, ça te marque.
Oui, mais ça, d'un côté, ça peut développer une certaine résilience, donc une capacité de se dire, ben, je vois qu'avec peu d'argent, je suis quand même capable de fonctionner. On peut développer ces croyances-là. Puis de l'autre côté, on peut développer une certaine peur de perdre l'argent. Donc, ça va dépendre vraiment de chacun des individus. On le sait pas vraiment tant qu'on n'en a pas vraiment discuté avec la personne. Puis, donc, cet élément-là est bien important. Comment est-ce que ça va se développer? Ça va dépendre des individus. Par contre, ce qu'on sait comme professionnel, comme psychologue, c'est comment aider la personne pour changer sa façon de voir les choses.
Comme une petite affaire que tu pourrais dire à André.
Les différents comportements. Bien, il y a probablement des vérifications qu'il fait, puis des situations qu'il fait, puis qu'il trouve en lien avec l'argent, puis qu'il trouve difficile, peut-être vérifier le compte de banque, vérifier les sous, qu'il doit tranquillement éliminer pour essayer d'augmenter sa tolérance à cette détresse-là, sa tolérance à l'anxiété qui va être générée par le fait que peut-être qu'il y a un peu moins d'argent. Donc, c'est dans ces eaux-là. C'est difficile quand on n'a pas évalué puis qu'on n'est pas vraiment avec un client spécifiquement.
Mais moi, j'en connais des gens, comme André. Là. D'ailleurs, j'ai eu un doute. Je me suis dit, non, c'est tout mon ami qui m'appelle. qui a fait beaucoup d'argent, qui vient d'une famille qui n'était pas riche, qui a manqué dans son enfance, puis qui a réussi à devenir millionnaire, qui a eu des hauts et des bas, mais qui a toujours réussi à se refaire, qui aujourd'hui est très, très, très à l'aise et plusieurs fois millionnaire. Et il continue d'avoir peur de manquer d'argent. Puis t'as beau lui dire, regarde, ça va bien aller.
Oui.
C'est irrationnel.
Absolument. Puis c'est là que les amis peuvent le dire, le conjoint et la conjointe peuvent le dire, mais c'est là qu'un professionnel à l'extérieur qui va aider à donner vraiment des bons exercices, des bons trucs, des bonnes façons de remettre en question ces pensées-là, c'est là qu'on est efficace.
Mais ça soigne, c'est ce que tu dis.
Ah oui, absolument.
Ouais.
Absolument.
Catherine, voulait-elle rajouter quelque chose là-dessus?
En fait, toutes les situations qui amènent de l'incertitude comme ça, pour nous, on peut se dire, quand on est à l'extérieur de la situation, on peut se dire, ben voyons, mais c'est impossible d'en manquer avec autant de sous. Mais quand on est au centre de la situation, c'est difficile de tolérer cette incertitude-là qui a déjà été vécu auparavant.
On a Claude avec nous. Bonjour, Claude. Oh, Claude?
Oui, oui, allô?
Oui, on vous écoute. Oui. Allez-y.
Bon, moi, je suis un médecin retraité. Oui. Je viens de faire une crise cardiaque. J'ai vécu dans ma vie beaucoup de stress. D'abord, premièrement, ma famille était pauvre. C'est moi qui m'en occupais parce que j'avais assez d'argent pour m'en occuper. Maintenant, je me sens coupable. Là, on veut m'avoir pour travailler parce qu'il y a beaucoup de médecins dans la région, tout ça. Je me suis culpabilisé parce que je ne pouvais pas y aller parce que j'ai plus la force de le faire. Je suis rendu à 70 ans. Puis cette culpabilité, à un moment donné, m'a entraîné à beaucoup de scénarios, beaucoup de choses. À un moment donné, je tombe à terre, puis j'ai fait une crise de cœur. Là, ils vont venir à l'Institut de cardiologie de Montréal. Puis là-bas, ils vont dire, ils vont débloquer toute l'histoire. Il y a un médecin spécialiste qui m'a dit là-bas, un cardiologue, il dit, monsieur, votre stress que vous avez vécu toute votre vie, l'accumulation, la perte de votre père, le stress au travail, tout ça a fait que c'est pas l'alimentation. J'étais un gars qui faisait du sport, j'étais actif. Je faisais du bicycle, je mangeais bien, j'avais une taille normale, je faisais pas de diabète, mais là-bas, c'est une crise de cœur. Fait que lui, il me dit que le stress avait entraîné ça.
C'est fort
le
possible.
C'est pour ça que je pose la question aux intervenants. Moi, je mets en garde, je l'ai vécu, là. Ceux qui ont vécu comme moi beaucoup de stress, qui pensent qu'ils sont au-dessus des affaires, qui ont beau être sains au point de vue physique, tout d'un coup, bang! Moi, je ne m'attendais pas à ça. Là. Pensez-vous que je m'attendais à ça? Ça me réveillait.
Merci.
Alors, je pose la question aux intervenants. Est-ce que c'est vrai? Moi, je prends la parole de cardiologue qui me dit que ça pourrait être les antécédents ou ça peut être aussi le stress qui occasionne un infarctus.
Nicolas?
je pense que pour la question au niveau des cardiologues, le cardiologue semble avoir bien répondu quand même. Mais un élément que j'identifie dans ce que vous nous racontez, qui est très important puis qui est très présent chez les gens lorsqu'on leur apprend à mieux gérer leur stress, un des premiers facteurs individuels, on parlait des facteurs liés à l'organisation tout à l'heure, mais un facteur individuel, c'est l'affirmation de soi. Oui. Donc, jusqu'à quel point est-ce que moi-même, je suis capable de mettre mes limites, ce qu'on appelle en bon québécois, apprendre à dire non.
C'est ça.
Donc, jusqu'à quel point est-ce que je suis capable de dire non?
C'est difficile,
ça. Ouais. Et d'en assumer les conséquences aussi, parce qu'apprendre à dire non, ça veut dire ça aussi. Là. Ça veut dire que si je dis non, ben, peut-être que les gens vont moins m'apprécier, vont penser de moi de façon moins positive, peut-être que je vais faire moins d'argent. Mais dire non, mettre ses limites, c'est fondamental dans la gestion du stress.
Oui, Catherine.
On sait aussi qu'à court terme, le système de stress, c'est un système qui est hautement bénéfique. Là, on en a besoin, hein, on l'a dit, on a besoin de cumuler de l'énergie pour combattre ou fuir une menace qui est concrète. C'est à ça qui sert le système de stress. Et donc, à court terme, on n'aura pas de problème physique ou psychologique parce qu'on vit une certaine quantité de stress par jour. Ceci dit, à long terme, cette sécrétion d'hormones-là peut taxer le système puis nous amener à développer des maladies comme des troubles cardiovasculaires, le diabète de type 2, où on peut encore parler de psychopathologie comme l'épuisement professionnel, la dépression, etc. Et donc, c'est fort possible que le stress puisse causer l'apparition de ce type de pathologie-là chez l'adulte.
Surtout aussi si on essaie de calmer notre stress avec des substances, par exemple, que ce soit du cannabis ou de l'alcool ou d'autres drogues.
Oui,
tout à fait.
En fait, il y a plusieurs... C'est un signe qu'on reconnaît chez les gens qui sont en épuisement, là, qui s'en vont vers l'apparition de maladies chroniques associées au système de stress. Les comportements de consommation, parce que le cerveau, s'y est sous tension toute la journée avec du stress, que ce soit au travail ou à la maison. En arrivant à la maison le soir, il va vouloir une récompense qui est facile. Il va vouloir s'apaiser rapidement et donc va nous amener à adopter des comportements de consommation, que ce soit avec le cannabis, l'alcool, la cigarette, qui sont des comportements classiques. Mais on peut aussi parler de magasinage compulsif, parier de l'argent, jouer à des jeux vidéo.
Jeux vidéo, absolument. Jeux vidéo dans la nouvelle génération, là, c'est le... comportement.
Ça active le système de dépendance. Le cerveau aime ça. On peut même parler des jeux sur les applications mobiles. Je ne sais pas si vous avez déjà joué à ça, Candy Crush. Là. C'est addictif. Ça pète de partout. Ça fait de la lumière, des petites couleurs. Le cerveau aime ça. Va donc nous amener à répéter ces comportements-là quand ils sont sous tension. Bien entendu, on ne commencera pas à souffrir de maladies cardiovasculaires parce qu'on joue à Candy Crush à tous les jours parce qu'on est trop stressé. Mais c'est certain que si on va vers des comportements de consommation comme l'alcool, le cannabis, ça peut nous amener à développer plus encore certaines pathologies.
Ouais. On va s'arrêter ici, très courte pause. Dites-moi comment vous gérez votre stress et surtout, qu'est-ce qui vous stresse le plus? Là, jusqu'à maintenant, ce qu'on a entendu comme témoignage, l'argent était pas mal au cœur de notre stress. 514-790-9850 et sans frais, vous faites le 1-866-790-9850. On parle de stress ce matin. Comment bien le gérer, ce fameux stress qui nous pollue la vie? Nos invités, Catherine Raymond, qui est doctorante au Centre d'études sur le stress humain. Pardon, Nicolas Chevrier, psychologue du travail. On est avec nous Louis, bonjour.
Oui, bon matin à vous tous. Juste entendre en ligne, ça me stresse, mais alors blague.
C'est une blague à part. désolé, Louis, vraiment.
Ben non, c'est une blague. Je vais essayer de ne pas prendre trop de temps parce qu'ils m'ont dit. Moi, je suis de nature, je suis nerveux, d'accord, mais je suis quand même capable de gérer ça. Je médite, je pense, puis c'est ça. Je marche à l'adrénaline. Moi, qu'est-ce qui vient me chercher beaucoup, là, d'accord? J'ai une fille de 30 ans, ben, on ne rentrera pas dans les détails. Elle a déjà été abstinente quelques années, OK, de la drogue. Puis là, en ce moment, là, des in and out. Puis moi, je disais ça pas mal mieux avant, mais là, j'ai beau confier, je dis, écoute, c'est pas que je m'en lave les mains, c'est pas ça, vous comprenez, ça vient me chercher, tu sais, j'essaie de pas être négatif là-dedans, mais des fois, là, t'sais, à barouette, le soir, quand je me couche, je mets le cellulaire à off, justement. J'ai toujours dans la tête, j'espère que ça ne cognera pas un jour à la porte, que ce soit les corps policiers, vous comprenez, là.
Ouais.
Mais j'essaie de pas, je n'emmagasine pas ça, là. Je veux pas que ça reste dans mon subconscient.
Mais ça l'est quand même un peu, finalement.
C'est sûr.
Sans doute notre plus grande source d'inquiétude. Nicolas Chevrier.
Définitivement, c'est une situation qui est extrêmement difficile parce que on parlait de contrôle tout à l'heure puis de l'importance du contrôle. Vient un moment où sur nos enfants, quand ils ont 4, 5, 6 ans, on a quand même un bon contrôle. On peut leur dire à quelle heure aller se coucher. On peut leur dire d'arrêter de regarder la télévision. Mais passé 15, 16, 17 ans,
c'est ce qui fait souvent que 12.
Ben voilà, passer ces heures, on n'a plus vraiment de contrôle. Puis non. Il faut accepter que ce qu'on a semé dans la petite enfance va bien fleurir, et puis accepter que l'enfant aussi, à travers son développement, va parfois faire des erreurs, va parfois avoir des difficultés, puis que la seule chose sur laquelle on a un contrôle, la seule chose qu'on peut faire, c'est vraiment d'être là comme supportant, en support quand l'enfant a besoin de nous. Mais au-delà, malheureusement, il doit faire son ouais. chemin seul. Puis, s'il a besoin de nous, on est là, mais fait que c'est difficile. Cette acceptation-là, là, c'est terrible.
Catherine?
Quand on arrive à l'adolescence aussi, non seulement on n'a plus autant de contrôle qu'on en avait, mais ça devient tellement imprévisible. Tu sais, avoir un enfant, on a une routine hein, dans les premières années de la vie, le dodo, la sieste, les repas, etc. L'adolescent, dès qu'il rentre à l'école secondaire, les parents perdent un peu en importance au niveau relationnel, puis ça va être plutôt les amis qui vont commencer à prendre cette importance-là.
Et c'est un stress, ça, pour les parents, parce que je reviens à ta liste tout à l'heure, Nicolas, tu parlais de la charge, le contrôle, les valeurs, la reconnaissance, l'équité, les relations humaines. D'abord, bon, le contrôle, la notion de contrôle ici, les parents l'ont plus, le contrôle sur leurs jeunes, là.
Exactement, le contrôle est beaucoup, change à tout le moins. La relation de contrôle va changer beaucoup.
Exactement. La valeur, le respect, il est là, ça fluctue.
Des fois, il est moins là.
Des fois, il est moins là. Puis après, tout est dans les relations humaines. On n'est pas forcément tous des psychologues non plus. On commet des erreurs comme parents, ils en commettent comme ados.
Et on vit du stress en tant que parents.
Et c'est extrêmement stressant, voilà.
Mais oui, puis on peut ramener ce stress-là à la maison. On a eu une mauvaise journée de travail. On arrive, on est un petit peu sur les dents. On est en colère à cause de notre journée. Là, l'enfant fait un faux pas. Toi. Il arrive en retard, pas là pour le souper. C'est beaucoup plus facile par la suite de devenir impatient auprès de notre enfant, ce qui va par la suite miner aussi
le rapport qu'on va avoir.
Exactement. Puis l'enfant, du côté de l'enfant aussi, l'enfant à 14, 15, 16 ans, il se fait dire par notre société, tu dois être performant, tu dois être bon, tu dois faire de l'argent. À un moment donné, ça fait beaucoup de pression aussi sur le dos de nos adolescents.
Tu dois être beau
et très
performant sur les médias sociaux aussi.
Oui, les femmes avec l'image des jeunes filles, c'est terrible.
Liliana m'écrit que sa fille de 14 ans a beaucoup de difficultés à passer ses examens. Elle étudie, on revise. Il semble qu'elle comprend bien le contenu, mais ses résultats sont souvent mauvais. Elle me dit qu'elle oublie tout pendant ses examens. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire, nous demande la maman. Qu'est-ce qu'on peut suggérer ici? Parce que là, c'est la période on est dans la période de révision. Dans 6 semaines et moins, ça va être les examens qui vont commencer secondaire. En secondaire 4, là, moi, ma fille est en 4, là, ils ont l'impression qu'ils jouent leur vie. Là. Puis ça a toujours été ça. Là. Non, mais même secondaire 5, on leur dit encore, secondaire 5, tu peux quasiment relaxer. C'est secondaire 4. Secondaire 4, il faut que tu décides de ce que tu vas faire plus tard. Ça, c'est un stress. Là.
Ah, y a
épouvantable.
Énormément de pression.
Ils ont 15 ans.
Ah, y a beaucoup de pression. Puis ce qui arrive, en fait, c'est qu'il y a plusieurs adolescents ou même enfants chez qui on va diagnostiquer un déficit d'attention.
Ouais.
Puis la principale cause n'est pas le déficit, mais va être plutôt le stress qui est vécu soit à la maison, soit à l'école. En fait, ce qu'on sait, c'est que probablement que cette étudiante-là, là, de qui la mère parle, probablement qu'elle apprend très bien son matériel, ou en tout cas, c'est ce que la mère semble rapporter. Et probablement que si elle rapportait cette information-là, donc si elle essayait de faire un examen à la maison, dans le confort de son foyer, elle n'aurait pas de difficulté à rappeler cette information-là.
Sauf que ça ne marche pas de même.
Sauf que ça ne marche pas comme ça, parce qu'on arrive en contexte d'évaluation, on est à l'école, qui n'est pas l'environnement dans lequel on étudie, première des choses. Deuxièmement, la copie nous semble tellement menaçante, parce qu'elle a tellement d'implications, hein, que ce soit de passer notre année, de rentrer au cégep, que nos parents soient contents de la note qu'on a reçue aussi, qu'on soit content de cette note-là. Et donc, toute cette pression-là qu'on se met va faire en sorte qu'on va sécréter des hormones de stress à ce moment-là qui vont nous faire focusser sur la menace. Puis malheureusement, à ce moment-là, la menace, c'est pas de se rappeler les réponses qu'on a déjà encodées à la maison, ça va être de performer. Et donc, l'étudiant mis dans cette situation-là va avoir de la difficulté à aller rechercher l'information qui est emmagasinée dans le cerveau. Il la connaît, cette information-là. Ouais. Elle est à quelque part, mais il n'est pas capable d'aller la rechercher.
Est-ce qu'elle dit, c'est pas comme ça que ça marche à l'école. Ça fait, on l'a tous vécu. Puis est-ce que c'est comme une barrière à l'entrée? Justement, c'est une façon de décrémer, de dire, la société est faite pour ceux qui savent gérer leur stress. Puis les autres, prenez des pilules.
Je pense que c'est important d'apprendre tôt à gérer son stress, à gérer ses émotions.
Et on apprend ça où, Catherine? Ils ne l'enseignent pas à l'école. C'est comme la sexualité, puis c'est comme d'autres choses. C'est les finances, la sexualité, tout ça. La gestion du stress, il n'y a pas de cours de ça, là.
Non,
c'est mal fait.
De ça. On devrait avoir des cours de gestion des émotions. Ce qui inclut la gestion du stress également. Le stress, l'anxiété, c'est des émotions normales.
Puis tes parents sont pas toujours les meilleurs pour te l'enseigner.
Clairement, on a une génération qui a jamais eu ces cours-là. Donc, nécessairement, eux-mêmes le savent pas. Ils l'ont pas vécu.
T'en as-tu des cours, toi?
J'ai pas eu de cours de gestion des émotions ni de gestion du stress. Jamais.
Personne n'a
jamais eu ça.
Il faudrait. En fait, il faudrait. C'est sûr que, en fait, c'est des discussions qui se posent présentement. On aimerait que ce soit inclus dans les classes. On pense que ce serait important. En effet, les parents ne sont pas toujours les meilleurs enseignants.
Non, des fois, il y a beaucoup de gens qui ont des parents dysfonctionnels. Ça le dit, ils sont pas capables de fonctionner pour eux-mêmes. Comment veux-tu qu'ils le montrent à leurs enfants?
Mais il y a un élément qui est extrêmement important aussi dans le développement de la mauvaise gestion du stress puis des troubles anxieux. C'est que souvent, le jeune qui développe un trouble anxieux, il a appris cette façon-là de gérer à quelque part. Il a appris à la maison. Il s'est fait dire quand il était jeune que le monde est dangereux.
Attention!
Tiens-moi la main, attention aux autos, barre la porte, il peut y avoir des voleurs. Il développe une croyance, une perception qu'il y a du danger, que le monde est dangereux. Puis c'est à partir de là, ensuite, qu'il y a une mauvaise gestion de l'anxiété qui se développe. Donc, certainement que les parents ne sont pas les meilleurs pour aider les enfants à apprendre à bien gérer leur anxiété. À l'école, c'est sûr que c'est un milieu intéressant. Puis il y a quand même quelques petits programmes qui commencent. Moi, je me souviens de mes enfants qui ont suivi le programme de la grenouille attentive. Je me rappelle pas exactement c'était quoi, là, où on parlait de pleine conscience, qui est une des façons d'apprendre à avoir un certain détachement puis à mieux gérer son stress puis son anxiété.
OK, on va revenir là-dessus justement après la pause. Restez là, tout le monde. On a Salim avec nous qui a déjà eu pas mal de stress, mais qui a appris une façon de le gérer. Est-ce que vous pouvez nous communiquer votre manière de gérer votre stress, Salim, qu'on en profite?
Bonjour Isabelle, bonjour tout le monde. En fait, oui, effectivement, j'ai quand même traversé une période de stress intense avec beaucoup d'anxiété, mais pour plus rassurer les gens, je vais très, très bien. Et moi, les conseils que je veux donner aux gens qui souffrent de stress ou d'anxiété, c'est d'abord commencer par changer leur façon de penser. C'est très difficile au départ. Il faut savoir bloquer les pensées négatives.
Ouais.
Ça prend peut-être un mois jusqu'à un mois et demi de travail intense pour pouvoir aider le cerveau à bloquer automatiquement tout ce qui est négatif. Sachant que le cerveau consomme à peu près 40% de toutes les protéines qu'on consomme quotidiennement, c'est clair que quelqu'un qui souffre d'anxiété ou de stress, c'est sûr qu'il éprouve beaucoup de fatigue. C'est principalement à cause de la nutrition. Donc, si quelqu'un en souffre de stress ou d'anxiété, mieux vaut avoir son apport quotidien en termes de protéines.
Vous me permettrez de vous arrêter là-dedans parce que là, on part dans... Depuis demain, on va parler d'alimentation, entre autres, mais je trouve ça intéressant quand il dit, bon, il faut contrôler ses pensées négatives. Évidemment, là, j'ai deux spécialistes qui disait oui, mais c'est pas si simple que ça, Nicolas Chevrier.
C'est pas si simple que ça, il faut le faire avec une certaine technique. Une des choses qu'on sait du cerveau, c'est que de bloquer certaines pensées négatives, ça fonctionne pas. Donc, lorsqu'on demande à quelqu'un d'arrêter de penser à quelque chose,
si c'était facile de même, on le ferait tous.
Si je te demande dans la prochaine minute de ne pas penser à un éléphant blanc, bonne chance.
Je viens d'y penser.
Voilà, exactement. Donc, ça fonctionne pas. Ce qu'on veut, par contre, c'est canaliser ces pensées-là négatives. Fait canaliser, ça veut dire quoi? Ça veut dire de les diriger vers certains moments spécifiques. Puis c'est ce qu'on fait dans la thérapie, entre autres, avec le trouble d'anxiété généralisé. On va diriger ces pensées-là vers certains moments spécifiques. On va demander, par exemple, à la personne de s'inquiéter, d'être anxieux, de penser à des pensées négatives durant 15 minutes durant sa journée. Et puis pour le reste de sa journée, il va canaliser, donc diriger ces pensées-là vers ce moment-là. Donc, quand la pensée négative arrive, on se dit, j'y repenserai ce soir à 6 heures. C'est mon 15 minutes d'inquiétude. Donc, de cette façon-là...
Ça marche?
Oui, ça marche très bien. On s'inquiète pendant seulement une quinzaine de minutes par jour, puis tranquillement, ensuite, on va réduire, puis on va travailler les pensées dans cette quinzaine de minutes-là. Donc, mais si on se dirait, par exemple, je dois pas penser à aucune pensée négative, ça marche pas.
Donc, il faut
les canaliser. Puis, il y a toutes sortes de petites subtilités comme ça, là, avec les pensées, qui fonctionnent très bien, puis qui a des données probantes, de la recherche scientifique. Il y en a qui supportent ces techniques-là pour pouvoir nous aider, entre autres, quand on souffre des différents troubles anxieux.
Oui, Catherine Raymond.
En fait,
tu voulais parler du programme Déstress et Progresse?
Bien, définitivement. Tantôt, on parlait de stress, d'anxiété chez les jeunes. Ouais. Au Centre d'études sur le stress humain de l'Université de Montréal, on a créé un programme qui s'appelle Déstress et Progresse et qui vise à enseigner aux intervenants dans le milieu scolaire, donc que ce soit les enseignants, travailleurs sociaux, psychoéducateurs, à donner eux-mêmes des ateliers aux jeunes dans les écoles et dans les milieux dans lesquels ils interviennent. Donc, c'est d'apprendre aux jeunes c'est quoi le stress. Donc, tantôt, on parlait du ciné, on parlait des différentes caractéristiques qui peuvent nous amener amener à être stressé? Puis c'est quoi les techniques qui fonctionnent pour le diminuer? Parce qu'on le sait, si on enseigne quelque chose à un jeune, quand son cerveau est encore très plastique et en développement, il y a plus de chances d'acquérir ces capacités-là.
Est-ce qu'on peut y aller, nous aussi, suivre ça, des stress et progrès?
Il faut travailler dans le milieu de l'éducation, en principe. Et non seulement ça, mais vous ne pouvez pas, par la suite, aller former quelqu'un d'autre à le donner.
Donc, vous devriez donner des conférences pour que tout le monde puisse au moins avoir
On travaille là-dessus. Vous pouvez aller sur le site stresshumain.ca, donc au singulier, stresshumain.ca, et on publicise des conférences grand public.
La visualisation, d'après vous, ça marche, Nicolas Chevrier?
Ça marche pour les athlètes. Les athlètes avant la performance, après la performance, pour la rétroaction. Ça fonctionne, mais ce n'est pas une panacée. On parle souvent plus de thérapie cognitivo-comportementale, qui est reconnue comme étant l'approche la plus efficace pour les troubles anxieux, avec un bon thérapeute, bien sûr, une bonne relation avec le psychologue qui nous traite. C'est habituellement ce qu'on recommande le plus.
Et c'est là où il faut magasiner son thérapeute.
Absolument, très important. Ouais. C'est aussi important.
Merci beaucoup, Catherine Raymond, Nicolas Chevrier. Ça a été vraiment très intéressant. Bonne journée, tout le monde. On se retrouve demain.